Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous sommes à l'Opéra Comédie, donc où se prépare le Orfeo de Sartorio, pas celui de Monteverdi, non, de Sartorio. Et nous sommes avec Alain Blanchot, le maître des costumes de cette nouvelle production. Bonjour Alain Blanchot.
Bonjour.
Alors, vous avez déjà une belle carrière derrière vous, déjà depuis 20 ans, notamment avec Benjamin Lazare, puis vous aviez même commencé avant. J'ai lu sur ce qu'on trouve sur Internet, bien entendu. Ouais. Vous avez commencé avec des artistes de variété, avec des Brigitte Fontaine, Ingrid Cavan.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait.
Qui avaient leurs propres excentricités. Oui. Et puis, depuis quelques années, vous êtes devenu le costumier qu'on s'arrache pour les opéras baroques. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à cet intérêt spécifique à ce monde de l'opéra baroque?
Ce qui m'a intéressé avant tout, c'est que c'est un univers où beaucoup de metteurs en scène projettent beaucoup de choses. Et moi, ce qui m'intéresse dans les costumes, c'est de faire des costumes. Donc, dans les opéras baroques, on a beaucoup de personnages issus de la mythologie, des personnages à qui il arrive des aventures incroyables, des magiciens, des fées, des allégories, donc tout un tas de personnages qui permettent d'avoir une vraie possibilité pour moi de m'exprimer en les habillant. Donc, c'est ça que j'ai trouvé intéressant.
Il y a quelque chose qui est du côté de l'imaginaire, de la fantaisie.
Énormément, bien sûr, énormément. Donc, et les metteurs en scène sont très... Enfin, ceux avec qui je travaille sont très demandeurs de ça, d'avoir des images très fortes, d'avoir des propositions, d'avoir des... Donc moi, c'est un terrain de jeu formidable pour moi.
Alors, quand on parle de musique baroque, souvent, là, on parle des fois d'interprétation informée, maintenant, c'est le dernier terme. Avant, on parlait des baroqueux pour la musique, hein, pour les partitions qui ont cherché une reconstitution. Est-ce qu'il y a le même travail, vous êtes dans le même travail autour du costume, c'est-à-dire de retrouver ou de vous inspirer de les costumes d'époque, si je puis dire?
Quand j'ai commencé le travail avec Benjamin, il y a de ça, longtemps, avec
oui,
Philippe.
Oui, ça fait 20 ans, je crois, la
ouais.
première presque 20 ans.
Oui, presque 20 ans, c'est ça, le Bourgeois Gentilhomme. Et après, on a travaillé très rapidement avec Philippe Jarowski aussi. Et à l'époque, Benjamin souhaitait que les spectacles soient éclairés à la bougie. Et on était vraiment dans une recherche de comment ça aurait pu se passer à l'époque. Et donc moi j'ai beaucoup cherché, je me suis documenté sur comment les vêtements étaient organisés, même comment étaient les dessous et quelles couleurs on utilisait, quelles couleurs n'existaient pas ou de manière différente, comment on faisait fonctionner les choses, comment on faisait fonctionner les couleurs avec la bougie, ce qui était très compliqué. Et Mathilde Benmoussa, qui travaille avec nous aussi, qui fait les coiffures et les maquillages depuis le début, cherchait aussi comment faire ressortir les visages, avec la lumière, la bougie, c'est très compliqué. Et une fois qu'on a eu fait le tour de tout ça, on a souhaité s'en détacher. Et donc maintenant, ce qui reste, c'est tout ce qu'on a acquis de cette période et avec lequel on s'amuse pour en faire autre chose. Donc là, maintenant, on cherche plus à réutiliser des codes ou des clins d'œil baroques, enfin du XVIIe siècle, alors, pour en faire des vêtements plus accessibles, un peu plus contemporains. Dans l'opéra qu'on est en train de préparer, là, le début de l'opéra sera très décoré, tous les personnages vont arriver avec des costumes un peu magnifiques, et puis progressivement ils vont se dépouiller et ils vont devenir quasiment à la fin en costume contemporain et très simple. Et c'est ça qui est amusant, et ça représente un peu ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire de se réutiliser vraiment tous les codes, mais pour en faire autre chose. Et pour Benjamin, en mise en scène, c'est pareil. C'est pour en faire autre chose et faire un lien plus avec notre monde actuel. mais tout en gardant cet imaginaire merveilleux.
Alors, vous évoquiez les premières expériences avec des spectacles éclairés comme à l'époque, si je puis dire, à la bougie. Alors, on imagine bien les problèmes que ça pose de l'intensité de la lumière, mais aussi de ce qu'on appelle de température de couleur. On a une lumière très chaude avec les bougies qu'on n'a pas avec les éclairages, pas forcément avec les éclairages modernes. Est-ce que vous avez toujours ce souci du rapport lumière, décor, costume, du côté des couleurs?
L'expérience de la bougie m'a fait prendre conscience de la difficulté de subir un éclairage. Et donc maintenant, j'essaie, dans la mesure du possible, d'intégrer mon propre éclairage. C'est-à-dire que si j'ai un créateur lumière qui est favorable, il va pouvoir servir la situation avec mes costumes et mes couleurs. Mais si je tombe sur un créateur de lumière qui est moins favorable, j'arrive un peu à m'en sortir parce que j'ai un peu intégré, j'ai tellement travaillé sur ça que j'ai un peu intégré justement mes propres lumières dans mes costumes. Donc je m'en sors toujours à peu près bien.
D'accord, vos costumes résistent aux différentes lumières.
Oui, c'est un peu ça.
Alors, vous avez évoqué un peu la conception que vous avez eue sur ce spectacle. C'est Benjamin Lazare nous disait que c'est un an de préparation déjà derrière vous.
Toujours un opéra.
À partir des premiers dessins, premiers échanges oraux, j'imagine.
Oui, c'est toujours à peu près un an.
Les premiers croquis avant que...
Donc,
vous évoquez ces costumes. C'est un costume qui progresse. Donc vous expliquez des costumes très d'apparat, on pourrait dire, au début. Et puis on se dépouille et on quitte l'histoire et on vient en même temps à la période contemporaine.
Non, c'est pas qu'on vient à la période contemporaine, c'est plus dans une idée de pour chaque personnage de raconter ce qui raconte son histoire. Et en racontant son histoire, il devient de plus en plus sincère. Et donc, il enlève dans ce qu'il dit tout l'artifice. Et il fait la même chose avec son costume. Il enlève ce gros manteau qui était très doré pour laisser apparaître une chemise avec beaucoup de dentelle, peut-être. Et donc, il va enlever la dentelle après pour avoir une chemise toute simple. Et finalement, il aura un t-shirt en dessous. Et c'est avec ça qu'il va finir. Je dis un exemple.
Oui. Alors, ce que vous nous dites nous dit quelque chose de fondamental sur le costume et sur le vêtement. Plus il y en a, plus il y a du mensonge et il y a de la dissimulation.
Ah oui, je pense. Oui.
Peut-être c'est comme les contes africains. Ce qu'on dit, c'est des mensonges qui disent la vérité.
Oui, mais de toute façon, moi, je suis contre l'expression l'habit ne fait pas le moine. Je trouve que tout le temps, l'habit fait le moine. C'est chacun est habillé. On peut lire tellement de choses avec la manière dont les gens sont habillés. On peut dire beaucoup beaucoup de choses. Moi, je demande toujours au metteur en scène qu'on me raconte d'où viennent les gens, parce qu'on lit la pièce, mais après la pièce ou l'opéra, le livret. Mais qui sont ces gens-là? D'où ils viennent? Alors peut-être ils sont rois, donc ils sont fils de rois, mais est-ce qu'ils ont une enfance malheureuse? Est-ce qu'ils ont été aimés par leurs parents? Est-ce qu'ils ont eu des amis? Est-ce qu'ils ont été seuls? Est-ce qu'ils veulent utiliser ce pouvoir? Est-ce qu'ils ne veulent pas l'utiliser? Et une sorte de petite fiche technique et de personnalité. Et avec ça, on peut habiller les gens. Sinon, on ne peut pas habiller les gens. On habille les gens n'importe comment. Si on n'a pas un peu une idée de leur vécu.
On pourrait dire que vous les habillez avec leur histoire, alors.
Mais oui, tout à fait.
Voilà. Alors, on est dans la loge où il y a des costumes. Donc, peut-être vous pourriez nous raconter sur un des costumes qui vous a donné un travail qui vous a stimulé particulièrement. Comment c'est né? Et puis, il y a plusieurs costumes pour le même personnage. Comment ça évolue?
Alors, c'est pas un costume ça qui va évoluer, mais c'est un de ceux, je trouve, les plus intéressants. C'est le personnage de Chiron le centaure. Donc le centaure, c'est une personne qui est moitié homme, moitié cheval.
Oui, oui.
dans... Alors, voilà, on n'a pas trouvé de chanteur moitié homme, moitié cheval. donc, comment on fait pour faire ça? Donc, j'ai commencé à chercher des faux corps, enfin, comment on pourrait organiser un faux corps et tout ça. C'était très compliqué, ça aurait été compliqué à bouger, ou deux personnes en faisant une, enfin voilà. Et donc finalement, on a trouvé une meilleure idée, enfin j'ai trouvé une meilleure idée qui était de mettre ce centaure sur des chaussures très très hautes comme des sabots et de lui donner des béquilles, ce qui fait que techniquement, c'est plus facile pour le chanteur de se mouvoir avec des béquilles, mais en fait, ça fait vraiment quatre jambes et ça fait vraiment quelque chose de très étrange, un être hybride. Et finalement, c'est ça qu'on raconte dans le centaure. C'est pas forcément avec le haut homme et le bas cheval. Ce qu'on raconte, c'est un être hybride, mi-homme, mi-cheval.
Une chimère, ce qu'on appelle.
Et donc là, on le trouve. En plus, on a la chance d'avoir Yanis François qui fait le rôle et qui s'est vraiment investi dans cette idée d'être un cheval, donc qui lance des coups de sabot, qui se cabre, et c'est fabuleux. Et il a une grande crinière et une queue magnifique, donc c'est vraiment très intéressant. Et c'était la première fois que je faisais ça, ça m'amusait.
En même temps, ça doit être une sacrée contrainte, je me dis, pour le chanteur, d'être dans une position sur la pointe des pieds, comme
ouais,
ça.
Oui.
Est-ce que ça arrive qu'il y ait vous ayez rêvé des costumes, mais qu'ils soient devenus impraticables après sur la scène ou pour les chanteurs physiquement, ou des choses comme ça?
Oui, parfois on est obligé de renoncer à des idées qu'on avait, parce que c'est pas possible, parce que ça marche pas, parce que c'est... voilà. Nous, on rêve du spectacle un an à l'avance. Les distributions ne sont pas faites. Et au cours de la préparation, on commence à recevoir la distribution des chanteurs et des chanteuses. Et donc, parfois, on a des surprises. Des bonnes, et puis des moins bonnes. Et donc, il faut adapter le costume, comme le metteur en scène doit adapter sa mise en scène. Ouais. Si on a une grande chanteuse avec un petit chanteur qui doit faire couple, c'est différent. C'est pas que c'est moins bien, c'est différent. Donc c'est une autre vision du. Là sur le spectacle, on a le personnage de Otto Noé qui est Maya Kerani, et qui nous a annoncé une très bonne nouvelle pour elle au mois de février, mars, je ne sais plus, à savoir qu'elle était enceinte. Et donc là, lors des représentations, elle sera à 7 mois de grossesse, un peu plus de 7 mois, je crois. Et donc physiquement, ça a un impact.
C'est indéniable. ça doit en avoir.
Et donc, on adapte le costume. Il se trouve que dans le livret, c'était quelque chose qui était possible, qui était plausible. Ça aurait été Eurydice. Eurydice ne pouvait pas être enceinte de 7 mois. Mais le personnage de Tonoé peut être enceinte. Il n'y a rien de précisé là-dedans, dans le livret. Et de toute façon, le scénario tenait. Et donc à partir de ce moment-là, moi, je m'adapte. Et voilà, donc c'est sans arrêt des surprises de physique, de gens, de motivation, des gens qui aussi sont tellement motivés, qui nous poussent à aller plus loin. Ça, c'est merveilleux. Puis d'autres fois où ça se passe moins bien.
Ça arrive que des comédiens ou des chanteurs comme ça vous donnent des idées ou tout d'un coup aient des idées d'accessoires ou de d'enrichissement d'un costume.
Là on a le personnage d'Erinda qui est une vieille nourrice devenue très riche et sexuellement affamée. Et elle est jouée par Zachary Wilder. Et Zachary est tellement enthousiaste par rapport à son personnage que tous les jours, on rajoute, on enlève quelque chose, mais on rajoute quelque chose qui peut... Maintenant, il a un petit sac à main qui est très drôle. Il fait un striptease en enlevant ses gants à la Gilda pendant le spectacle. Enfin, voilà, comme il est demandeur... moi, je suis force de proposition, c'est mon travail. Donc, je peux proposer des choses et on essaye, ça marche, c'est validé par Benjamin, génial, on continue. Parfois, ce n'est pas validé, on arrête. Et voilà.
Voilà. Donc, jusqu'à la générale, il peut y avoir des petites modifications, bon, des petites adaptations, des nouveautés. Jusqu'à la première, même.
C'est ça qui est beau dans notre métier, c'est que ça... En fait, ça ne pourrait jamais s'arrêter. On pourrait continuer d'améliorer. À un moment, il faut décider. Donc,
j'imagine, même quand le spectacle est donné plusieurs fois, d'une représentation à l'autre, on se dit, tiens, ça va pas, il faut le changer, on va essayer autre chose.
Ça, je ne le fais plus, parce que quand on était jeune, on changeait tout le temps. Les chanteurs trouvaient ça insupportable, on se faisait insulter par tout le monde, donc on a arrêté. Donc, il y a une règle, c'est-à-dire que le soir de la première, c'est vraiment terminé. Et on ne touche plus à rien.
Bien, merci beaucoup pour Alain Blanchot pour cette disponibilité. On a eu du mal à vous trouver. Je me suis demandé si vous n'aviez pas tissé une cape d'invisibilité pour nous échapper. Mais non, vous étiez bien là. Et puis, bonne répétition, si je puis dire. Bonne fin de préparation et puis bon spectacle.
Merci beaucoup.